Pierre-Yves, les chauffeurs de Théo Taxi ont obtenu leur accréditation syndicale et c'est une journée historique parce que c'est la première fois au Québec que des chauffeurs de taxi seront syndiqués.
Oui, ça mène beaucoup de discussions. Un, chez Théo, une entreprise qui a besoin de capital de risque pour atteindre le point mort, c'est-à-dire atteindre le nombre de chauffeurs et le nombre de courses suffisant pour couvrir ses frais fixes et atteindre la rentabilité. Là, on ne dit pas que la syndicalisation, ça empêche la rentabilité, mais ça peut ajouter des négociations de conditions de travail, de conditions d'horaire et enlever de la flexibilité au groupe qui nuirait à l'atteinte de la rentabilité et potentiellement peut-être nuire aux emplois des gens qui se syndiquent. L'autre point, c'est de se demander, la syndicalisation à 15 $ de l'heure, parce qu'on a déjà un 15 $ chez Théo, semble être une bonne rémunération pour l'industrie. Alors, c'est drôle de voir l'employeur qui garantit un salaire de base aller dans ce sens-là. Évidemment, d'un autre côté, les chauffeurs peuvent se dire, si ces conditions salariales-là ne font pas notre affaire, on peut retourner chez les concurrents et on peut retourner aussi propriétaire d'un taxi. Mais dans le moment, personne vraiment veut acheter des permis de taxi. Théo en a acheté, mais personne veut en acheter. Pourquoi? Parce que la valeur a chuté sur le marché. Mmh. Le gouvernement compense partiellement les propriétaires, mais en même temps, il compense pour une perte de valeur, mais même la valeur intrinsèque. Un chauffeur me disait récemment, on a peur que notre permis, éventuellement, ne vaille plus rien. Donc, c'est pas un 15-20 000 du gouvernement qui va nous compenser. Donc, tout ça étant ensemble, la concurrence d'Uber, c'est un bon moment pour faire pression, mais et, c'est un drôle de moment pour la survie.
Et le nouveau gouvernement qui va se mettre en place là au cours des prochains jours a déjà assuré que l'expérience Uber allait se poursuivre.
En plus. Donc, tu as tout ça ensemble. Donc, c'est un peu comme à la SQDC, hein. L'avantage de la SQDC, c'est que c'est une société du gouvernement. Donc, ça va être correct. Ils vont être capables de payer. Mais on met déjà de la syndicalisation, de la pression syndicale. Mais au niveau de Théo, ce qui est drôle, c'est, on sait que l'entreprise a besoin de liquidité et on va aller réclamer peut-être de meilleures conditions. Donc, plus d'avantages sociaux ou autre chose pour les chauffeurs. C'est à suivre. Mais ça va être difficile de faire survivre le modèle si les coûts augmentent.
Sears s'est donc placé sous la protection de la loi sur les faillites aux États-Unis. C'est le célèbre chapitre 11. Quand on fait appel à chapter 11 de la loi américaine sur les faillites, ben c'est parce qu'on est sur le bord de la fin. Mais ce n'est pas encore techniquement la fin.
Non, c'est qu'on se protège de Sears.
C'est ça.
Non. Mais en même temps, c'est une entreprise qui a désinvesti dans son image, qui a laissé les concurrents entrer sans réagir à temps, donc Walmart, Target, et maintenant Amazon. Tu sais, Paul, j'ai acheté un paquet chez Amazon hier à minuit, il est arrivé tantôt. Tu sais, comment un magasin à rayon peut battre ça?
C'est ça.
Si, quand avant, le but, c'est que t'amenais ton client dans le magasin à rayon, comme chez Sears, et t'achetais autre chose. C'était une expérience, c'était une journée. Aujourd'hui, le client reste chez lui, et vu que l'hiver s'en vient, ça augmente encore plus sa propension dans les États nordiques, si on veut, à rester chez lui, à se faire livrer à la maison. Donc, tout ça nuit à Sears, et Sears n'a jamais eu une image qui s'est renouvelée. On a visé les familles de génération en génération, mais jamais on a tenté de renouveler correctement l'image et de réattirer une jeune clientèle dans les magasins. Et l'action qui était à 100 $ américains en 2007 est rendue, Paul, en frôlant les 30 cents.
Donc,
on a perdu la majorité de la valeur de la dernière année et c'est un titre qui descend. Et je me demande vraiment comment on va pouvoir sauver une entreprise dont l'image est brûlée.
Oui,
parfois, même si on a un bon plan, des bons produits, l'image n'est pas là.
Oui, parce que tu ne peux pas renaître de tes cendres complètement avec une nouvelle... Mais je suis allé en parler à Bernard Drainville cet après-midi parce qu'hier, je me suis intéressé à la compagnie, donc je faisais une petite recherche personnelle. Écoute, c'est une compagnie qui est née en 1893, qui a innové dans bien des départements, notamment...
Le catalogue
et la vente par correspondance, donc avec le catalogue, où tu pouvais commander.
Et aller rejoindre les régions du Québec aussi qui n'étaient pas desservies par les grands magasins.
Oui.
Et Paul, je suis allé chez Rona récemment, puis il y a du Craftsman. Donc, on a vendu la marque Craftsman qui était chez Sears.
Exactement.
À Stanley Black & Decker. Et donc, par conséquent, tu n'as plus, même plus tes marques fortes, tu les as vendues. Il te reste Kenmore que tu vas vendre. Donc, qu'est-ce qui va rester?
C'est ça.
À part une agonie chez Sears.
Tu vois, le dernier catalogue a été publié en 1993. Ça fait 25 ans, là.
L'année de la Coupe Stanley.
Exactement. Où il y avait l'année de la Coupe Stanley. On avait là encore le catalogue Sears, en fait, le tout dernier.
C'est à l'époque, on pouvait tous porter la même chose, Paul. C'était pas grave, on était contents.
Oui, mais il y avait la signature, d'ailleurs. Tu pouvais porter des vêtements Sears.
En plus.
Oui, en plus, ils avaient ça. Pas seulement dans l'outillerie.
J'ai déjà eu un pyjama Sears, je dois l'avouer.
Bon, ben toi, garde-le, il va prendre la valeur. C'est un catalogue Sears.
Oui, mais c'est un pyjama commandé dans mon enfance. Je pense qu'il est déjà en guenille.
Évolution des titres techno, des pertes relatives par rapport aux gains.
Oui, c'est pour dire, on a eu fait des pertes dans les derniers jours, puis les gens ont paniqué, puis les technos ont tiré vers le bas, mais si on regarde ces titres-là précisément, prenons Netflix. Netflix a quand même, après la chute, même si l'action est passée plus de 380$ à 333$, on a perdu beaucoup, mais sur un an, on est encore à 67% de gains. Depuis le début de l'année, 74. Donc, oui, on a perdu 5, 6, 7% depuis 5 jours, mais c'est rien par rapport aux gains qu'on a fait sur l'année. Apple, même chose, on a peut-être perdu un peu, mais sur l'année, le titre a quand même été affecté de façon moindrement, parce que si on regarde depuis un an, on a fait 35% quand même. Facebook, évidemment, Facebook est un mélange. Il y a, oui, la baisse de la bourse récente, mais il y a surtout les scandales d'accès aux données qu'il y a eu. Il y en a eu un autre récemment. Donc, les gens ont eu peur. Ça a fait baisser le titre de plus de 200$ à 150 environ. Mais on est à 153 environ présentement. Mais lui, on a vraiment fait une perte qui est relativement irrécupérable pour un court terme. Et chez Alphabet, on fait quand même un rendement relativement correct de 4,4% depuis le début de l'année, malgré la chute. Donc, les titres qui ont été fortement affectés ont quand même généré tellement de valeur dans le passé qu'on a mangé du gain. C'est comme commander. Tu sais, c'est comme quand tu commandes une pizza 2 pour 1. Puis tu dis, je veux juste une pizza, mais il y en a une deuxième qui vient avec.
Ouais, gratis.
Si jamais t'en gaspilles la moitié, tu te dis, ah, c'est pas grave, j'en ai eu pour mon argent quand même.
Exactement. Mais voilà. Tu peux toujours également la mettre dans du papier aluminium et la conserver.
Et la mettre au micro-ondes le lendemain, Paul, et c'est toujours aussi bon.
Ah, oh, au micro-ondes, je suis pas sûr. T'es mieux de la mettre au four.
OK.
Micro-ondes, ça la rend trop caoutchoutée.
T'as raison.
Une petite remarque comme ça. Merci et à demain.
Salut, Paul.